Il est midi et demi sur France Culture. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. C'est la rentrée universitaire. La hausse des inscriptions va s'accompagner l'an prochain d'un effort budgétaire, assure ce matin Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, suivi de cette conférence de presse avec Hakim Kasmi. Le ministre de la Justice, de son côté, Jean-Jacques Urvoas, présentait un rapport sur l'encellulement individuel dans les prisons. Il estime qu'il faudra construire plus de 10 000 cellules d'ici au 1er janvier 2025. Compte rendu de cette conférence de presse avec Florence Turne. Aux États-Unis, c'est bien la piste d'une attaque d'inspiration djihadiste qui s'est renforcé après l'arrestation d'un Américain d'origine afghane de 28 ans inculpé pour les attentats de New York et dans le New Jersey ce week-end. Précision avec Eric Biegala. En République démocratique du Congo, le siège du premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale congolaise est en feu depuis ce matin au lendemain d'une journée de violence meurtrière à Kinshasa, suivie de la situation avec Bénédicte Robin. Et puis la campagne pour la primaire à droite. Nicolas Sarkozy affirme que dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Nous l'entendrons. L'invité de la séquence interview, Véronique Descac, qui est secrétaire générale adjointe de la CFDT. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jasbert.
Elle est où la gauche, Antoine Mercier? C'est la question qu'on va se poser. Et par où faut-il aller pour espérer la trouver? On va la chercher à partir de 12h55 avec notre invité, le philosophe Michael Fossel, à l'occasion de la parution du numéro de rentrée de la revue Esprit, L'avenir de la gauche.
C'est donc aujourd'hui la rentrée universitaire, l'université qui accueille quelque 30 000 étudiants supplémentaires cette année. La France compte environ 2,5 millions d'étudiants à la fac, en classe prépa, dans les BTS, les IUT ou dans les écoles. La hausse des inscriptions va s'accompagner l'an prochain d'un effort budgétaire, affirme le ministre, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Thierry Mandon, qui donnait ce matin donc une conférence de presse avec Najat Vallaud-Belkacem. Et la ministre de l'Éducation a notamment répondu, Hakim Kasmi, aux critiques sur la sélection en master.
Oui Antoine, ainsi théoriquement, il n'y a pas de sélection à l'université, quel que soit son type de bac. Le gouvernement, qui s'est toujours dit contre la sélection à l'université, envisage de l'instaurer non plus en Master 2, mais dès le Master 1, juste après la licence. Un choix qu'assume la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Najat Vallaud-Belkacem, qui préfère parler, je cite, de recrutement et non pas de sélection.
Il y a certains masters qui ont un nombre de places limitées, donc ils ne peuvent pas non plus prendre tous les étudiants qui aspirent à entrer dans le master. C'est ce qu'on appelle le recrutement. Il doit y avoir la possibilité à l'entrée, et pas en plein milieu du master, comme c'est le cas aujourd'hui, de pouvoir recruter les élèves les plus motivés, qui ont le niveau pédagogique le plus élevé, etc. Donc ça, je le comprends et je veux que nous allions vers cela.
Le ministère qui justifie aussi cette décision par le fait qu'avec la réforme LMD rentrée en vigueur il y a 15 ans, l'EM1 n'est plus diplômant, ce qui était le cas par exemple de la maîtrise à l'époque. Mais difficile de ne pas voir là aussi de la part du gouvernement une manière de réduire les effectifs, plus 30 000 étudiants cette rentrée, vous l'avez dit Antoine. Résultat, si Najat Vallaud-Belkacem se félicite d'avoir réduit de 60% les tirages au sort par exemple dans les filières sous tension comme le droit, la psychologie ou STAPS, les amphis restent encore bondés en cette rentrée. Quant au projet de décret sur la sélection en master, il sera présenté dès le mois d'octobre.
Merci beaucoup, Hakim Kasmi. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Michael Fossel. Bonjour.
Bonjour.
Philosophe. On parlera tout à l'heure de la gauche, on l'a dit. Vous enseignez, vous, à Polytechnique. Vous avez fait votre entrée il y a quelques jours déjà, peut-être même le mois dernier. Mais ça ne vous empêche pas d'être contre la sélection à l'université.
Pour quelle raison, ce n'est pas une contradiction absolue, je crois, parce que le problème de la sélection, c'est le problème d'abord, enfin, qui doit être opposé, celui du mode de sélection. Et même si, évidemment, la question de la dualité grandes écoles, université pose de grands problèmes en France, il y a des efforts insuffisants, à mon sens, pour essayer de rapprocher ces deux institutions. L'avantage, enfin, en tout cas, c'est la position que j'ai des grandes écoles, c'est qu'elles procèdent, malgré tout, par un mode de sélection, le concours, qui me paraît plus égalitaire que celui, disons, soit d'ailleurs de l'examen, soit, a fortiori, des conditions purement sociales. Alors, il est vrai que là aussi, les grandes écoles ont, y compris Polytechnique, des efforts à faire pour, disons, démocratiser l'accès, je parle cette fois-ci en termes d'origine sociale des élèves, mais il me semble quand même que je suis attaché, peut-être de manière républicaine, passéiste, à cette forme de concours, c'est-à-dire d'anonymat, en fait, pour dire les choses clairement, qui me paraît une forme de... La sélection est inévitable, de toutes les manières, dans le processus pédagogique, ça me paraît être la moins mauvaise.
Michael Fessel, merci beaucoup. Vous avez parlé de républicanisme passéiste, non pas passéiste.
Sur ce point-là, sur j'assume ce point. Une forme de républicanisme
voilà, si
passéiste,
mais
pour
la
beaucoup
gauche.
D'autres, j'aurai l'occasion d'y revenir.
Voilà, on vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table.
La présentation annuelle du rapport de la Cour des comptes sur les comptes sociaux, moins alarmiste que d'habitude, Antoine Mercier. Ça va mieux pour le trou de la Sécu, assure la Cour dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale.
Et oui, toutefois, le premier président de cette Cour, Didier Migaud, insiste une nouvelle fois sur la nécessité de ne pas relâcher les efforts de maîtrise des dépenses, et tout particulièrement pour l'assurance maladie. Dans le même temps, Jean-Marc Chardon, il affirme que l'accès aux soins doit être amélioré. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ?
C'est-à-dire que la demande d'amélioration de l'accès aux soins, c'est une constante de la communication des institutions. Elle est récurrente, à quelques niveaux qu'on prenne le message d'ailleurs, et quel que soit l'état des comptes. Partons du principe que des mesures d'économie n'empêchent pas d'améliorer la productivité des services, au contraire, grâce aux réorganisations qu'elles entraînent. Et des économies, c'est principalement dans la branche maladie qu'elles sont possibles. C'est la branche qui concentre le plus gros du déficit de la Sécu, à près de 6 milliards d'euros, c'est-à-dire 85% de l'ensemble. Alors, il faut se rendre compte que la branche maladie accumule un déficit continu depuis quasiment un quart de siècle, alors que la branche vieillesse, elle, a fini par se redresser un peu après une décennie. La crainte maintenant du président de la Cour des comptes, c'est que les bons résultats de 2015 ne soient pas confirmés, alors même qu'il va falloir réaliser non seulement les engagements pris précédemment, mais plus encore, c'est-à-dire ajouter 2 milliards de plus d'économies aux 10 milliards sur la période 2015-2017. Alors pourquoi ce surcroît d'économies, me direz-vous ? Tout simplement afin de compenser notamment des dépenses supplémentaires dues entre autres à la hausse des tarifs des consultations ainsi que des salaires de la fonction publique hospitalière. 10 plus 2, 12 milliards en cumulé. Effectivement, c'est un effort substantiel.
Jean-Marc Chardon, merci beaucoup. On peut lire aussi dans ce rapport que près d'un assuré sur cinq déclare avoir renoncé à des soins dentaires pour des raisons financières. La Cour des comptes préconise un meilleur remboursement par l'assurance maladie, davantage d'encadrement de la profession. Véronique Descac, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire général adjointe de la CFDT, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport ?
D'abord, il faut retenir que ça va mieux, mais que si ça va mieux, c'est aussi beaucoup parce que les bénéficiaires, les salariés, pour ce qui concerne les régimes de retraite, mais aussi les assurés, ont fait des efforts, voire ont parfois payé injustement ce redressement. On le voit bien avec les difficultés accrues d'accès aux soins pour une partie des assurés, pour une partie des citoyens, puisque maintenant la sécurité sociale maladie est vraiment universelle. Ce que je retiens, c'est que les réorganisations, elles ont souvent suivi les contraintes budgétaires, alors que de notre point de vue, elles auraient dû les précéder. Dit autrement, aujourd'hui, l'hôpital est à l'os. On ne peut plus demander d'efforts budgétaires à l'hôpital. J'étais encore ce week-end dans un hôpital où on avait plus de couverture à donner aux malades dans un service. Enfin, on voit des trucs hallucinants. Donc, il faut arrêter. Là aussi, les salariés ont fortement payé par leurs conditions de travail, les contraintes, on le sait, à l'hôpital. Ce que je retiens d'intéressant dans le rapport de la Cour des comptes, c'est cette question des tarifs et de l'effort qu'on ne demande pas, pour le coup, ou pas suffisamment, à la médecine libérale, qui à la fois est très peu partie prenante au travers ses syndicats de médecins libéraux aux réorganisations du système de soins qui doivent avoir lieu et qui est toujours sur une revendication de plus de rémunération. Il y a vraiment un problème avec la médecine de ville.
Véronique Descac, merci. On vous retrouve donc pour la séquence interview tout à l'heure.
Midi 38, sur France Culture, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, présentait lui ce matin un rapport sur l'encellulement individuel et c'était à la maison d'arrêt de Fresnes.
La surpopulation carcérale qui a atteint un nouveau record cet été. L'objectif d'un prisonnier par cellule inscrit dans la loi depuis 140 ans maintenant n'a jamais pu être atteint. Et le ministre suggère donc de construire plus de 10 000 nouvelles cellules d'ici 2025. Florence Thur, monsieur Urvoas pense aussi à ses successeurs. Apparemment.
2829 détenus pour 1607 places, 200% d'occupation. Fresnes, c'est d'abord le symbole de la surpopulation carcérale. Jean-Jacques Urvoas n'a donc pas choisi au hasard le lieu pour présenter son plan, un plan ambitieux, dit-il, avec l'objectif clairement affiché d'en finir avec la surpopulation carcérale. Un plan qui s'articule en trois volets. D'abord, renforcer et optimiser le parc pénitentiaire, priorité aux maisons d'arrêt où sont les prisonniers qui n'ont pas encore été jugés. Ces établissements qui affichent un taux d'occupation moyen de 138%. Il faut aujourd'hui construire des cellules et non pas des places, affirme le garde des Sceaux. Il livre une fourchette entre 10 300 et 16 100. Mais aussi mieux exploiter les cellules actuelles. Au 1er août dernier, il y avait 2 300 places vacantes dans les centres de détention. Deuxième volet, repenser la prise en charge des détenus. Jean-Jacques Urvoas annonce la création de QPS, des quartiers de préparation à la sortie qui remplaceront l'ensemble des dispositifs actuels. Enfin, il faut selon lui, et c'est l'élément principal, une loi de programmation pour engager un programme de construction et de rénovation. 1,3 milliard d'euros avec priorité à 3 régions, l'Île-de-France, la région toulousaine et la région PACA, un chiffre qui relève, cela dit, du diagnostic et qui va devoir maintenant faire l'objet d'un arbitrage politique.
Et encore un rapport parlementaire sur les abattoirs. Cette fois, ce sont les députés de la commission d'enquête parlementaire qui préconisent une vidéosurveillance obligatoire donc dans tous les abattoirs de France. Ils encouragent par ailleurs la pratique d'un étourdissement préalable à l'égorgement qui puisse être compatible avec les méthodes d'abattage rituel des cultes juifs et musulmans. Cette technique qui permet de faire perdre conscience momentanément à l'animal, qui permettrait, selon les députés, de respecter l'abattage rituel qui interdit l'égorgement d'animaux morts.
La suite du journal d'Antoine Mercier. La piste d'une attaque d'inspiration djihadiste se renforce après l'arrestation d'un Américain d'origine afghane de 28 ans, inculpé pour les attentats à New York et dans le New Jersey ce week-end, Antoine.
Il est suspecté d'avoir fait exploser donc une bombe au cœur de Manhattan et d'avoir déposé d'autres engins explosifs lors d'une fusillade qui a blessé le suspect et deux policiers. La police a donc arrêté ce suspect à Linden, dans le New Jersey, quelques heures après la publication d'un avis de recherche à son nom. À qui avons-nous affaire, Eric Begala?
Eh bien, il s'appelle Ahmad Khan Rahami, il a 28 ans, il est originaire d'Afghanistan, naturalisé américain. L'homme n'est pour le moment inculpé que de tentative de meurtre sur 5 policiers. C'est le résultat de la fusillade qu'il a lui-même déclenchée hier matin, au moment où 2 officiers de police s'apprêtaient à l'arrêter. Mais il y a fort à parier que le parquet de New York l'inculpera également pour les attentats et tentatives d'attentat à la bombe du week-end. Ce sont 16 empreintes digitales en effet qui ont été retrouvées sur l'une des 7 bombes artisanales n'ayant pas explosé. C'est également sous son nom qu'avaient été achetés plusieurs des téléphones portables devant servir à faire détonner ces engins explosifs. Quant à la personnalité d'Ahmad Rahami, les voisins et connaissances interrogés depuis hier par la presse new-yorkaise parlent à son sujet d'un homme plutôt calme, travaillant dans le fast-food familial, grand amateur de voitures. Certains évoquent pourtant une évolution vers davantage de religiosité. Après un séjour prolongé en Afghanistan et au Pakistan en 2014, Ahmad Khan Rahami s'était laissé pousser la barbe et portait plus volontiers la dijlacha, la tunique musulmane. Il était moins jovial, plus renfermé et priait plus souvent, raconte au New York Times un copain d'enfance de Rahami et qui fréquentait toujours le fast-food familial. Le profil d'Ahmad Rahami rappelle en fait celui des frères Tsarnaev qui avaient fait exploser un engin durant le marathon de Boston en 2013, tuant 3 personnes. Même le modus operandi des attentats de New York ce week-end, des bombes fabriquées à partir d'une cocotte minute et activées avec un téléphone portable, sont totalement similaires.
Eric Piegala, merci beaucoup. Après une très brève accalmie, la Syrie a replongé dans la guerre. Les raids ont été particulièrement violents à Alep, dans la province d'Alep, où plus de 40 frappes aériennes ont visé les zones rebelles. Au moins 36 civils ont été tués. Et puis un autre raid aérien de l'armée syrienne a touché hier un convoi humanitaire. 12 personnes tuées. L'ONU suspend tous ces convois aujourd'hui. À l'ONU, c'est l'ouverture de l'Assemblée Générale aujourd'hui à New York, qui va être dominée par cette crise syrienne, mais aussi par la question des migrants. Barack Obama, François Hollande, Theresa May doivent se succéder à la tribune pour cette première journée.
Au lendemain d'une journée de violence meurtrière à Kinshasa, le siège du premier parti d'opposition à l'Assemblée Nationale congolaise a été incendié ce matin.
Oui, c'était l'opposition qui manifestait à Kinshasa hier contre la volonté prêtée au président Joseph Kabila de prolonger son mandat au-delà de la limite prévue par la Constitution. Bénédicte Robin.
Et cette limite, c'était le 20 décembre prochain sur le papier, dans 3 mois donc. L'élection présidentielle devait se tenir à cette date, précisément. Mais pour cela, il aurait fallu que la commission électorale annonce officiellement ce scrutin aujourd'hui. Clairement, ce ne sera pas le cas. Les violences entre opposants et forces de l'ordre ne sont pas la cause, mais la conséquence. La commission électorale a en effet demandé ce week-end que la date de l'élection soit reportée. Une des raisons invoquées, c'est la refonte du fichier électoral qui prendrait trop de temps. Les principaux partis d'opposition qui ne sont pas représentés dans dans cette commission, il voit une brèche dans laquelle le président sortant, Joseph Kabila, pourrait facilement s'engouffrer si l'élection est repoussée. Kabila pourrait se maintenir plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et pourquoi pas modifier la constitution pour s'octroyer la possibilité d'un troisième mandat. La situation s'est envenimée très rapidement hier à la suite de manifestations à l'appel de l'opposition, des affrontements dans la capitale Kinshasa entre opposants et forces de l'ordre ont fait au moins 17 morts, dont 3 policiers selon le gouvernement, plus d'une cinquantaine selon l'opposition. Et cette nuit, vous l'avez dit, plusieurs bâtiments des partis d'opposition ont été incendiés, dont le principal, celui du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès, où 2 personnes ont péri et 5 ont été blessées. Les Nations Unies, l'Union Européenne et les États-Unis multiplient les condamnations et les appels au calme et s'inquiètent de voir sombrer la RDC dans une situation semblable à celle que connaissent le Burundi, le Congo-Brazzaville ou encore le Gabon, avec des dirigeants bien trop accrochés au pouvoir.
Bénédicte Robin, merci. On passe à la politique française avec toujours la campagne qui bat son plein pour la primaire à droite. Nicolas Sarkozy continue d'afficher des intentions de fermeté face à ce qu'il appelle l'islam extrémiste et politique. Meeting à Franconville hier, il se présente comme le porte-parole de la majorité silencieuse.
Si nous ne disons pas à ceux qui veulent nous rejoindre que nous ne nous contenterons plus d'une intégration qui ne marche plus, mais que nous exigeons l'assimilation, quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis Français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation.
Réaction ce matin de Bruno Le Maire, ne nous caricaturons pas dans nos paroles. Alain Juppé dénonce, lui, la propagande de ses concurrents, donc en visant à la fois Le Maire et Sarkozy pour la primaire, qui lui reproche de prôner des accommodements raisonnables avec l'islam politique. Alain Juppé ce matin sur France Info.
Je suis parfaitement conscient, je prie de le croire, des difficultés du temps présent. Je sais qu'aujourd'hui la France souffre, elle souffre en particulier d'un quinquennat qui aura été calamiteux, et les Français en ont conscience aussi, mais jamais je ne me présenterai si c'était pour dire aux Français « demain sera pire qu'aujourd'hui ». Je veux leur redonner espoir et confiance, fierté de la France et bonheur de vivre en France. Voilà ce que c'est que l'identité heureuse, c'est un objectif et je n'en démordrai pas. Quant à l'identité, pour moi, c'est une harmonie difficile, mais j'y tiens aussi à réaliser entre notre diversité, nous sommes divers, nous n'avons pas les mêmes origines, les mêmes couleurs de peau, les mêmes religions, mais nous partageons un bien commun. Et c'est ce lien entre la diversité et l'identité qui pour moi est l'unité, qui pour moi est porteur d'espérance.
Alain Juppé avec Jean-Michel Apathy.
Midi 47, à gauche, une première réunion publique à Gonesse dans le Val-d'Oise pour Arnaud Montebourg.
Et il ne faut pas faire des promesses, dit-il, mais présenter un projet. Il a appelé les déçus du quinquennat Hollande à construire donc le futur. Ludovic Piétonnier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous avez assisté à cette réunion hier et vous avez vu donc à l'œuvre cette fameuse méthode Montebourg.
C'est d'abord un discours ramassé d'une demi-heure aux deux tiers consacré à l'économie et à l'Europe. La vie quotidienne des Français, plaide le candidat qui joue la carte de l'intérêt. Interactivité avec le public, un long jeu de questions-réponses.
Madame, je vous en prie.
Oui, près bonjour, d'une heure et demie d'échange. Vous êtes les artisans du projet France et nous sommes en train de l'écrire. Montebourg joue la carte du participatif. Sur le fond, tout autour de la 6ème République, il entend révoquer les traités, lutter pied à pied contre les règles de Bruxelles qu'il qualifie d'absurdes, non pas sortir de l'euro mais réformer l'euro. À rebours de ce qu'il appelle l'autoritarisme, il vante un mélange de leadership, le sien.
Et sous le regard du public, sous le regard des citoyens européens, parce que eux-mêmes ont besoin de comprendre le sens de la démocratie européenne qui donne le sentiment de s'être retourné contre les peuples. C'est cela qui se passe aujourd'hui. La démocratie, c'est le rêve. Tout le monde nous dit « Ah, la souveraineté, quel gros mot !» Mais savez-vous que le beau mot de souveraineté a été inventé par la Révolution française ? C'était le droit pour les peuples de disposer d'eux-mêmes. Nous voulons disposer de nous-mêmes ensemble. Les Européens, c'est ma position, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, finalement, nous rassemblons beaucoup plus large que les seuls socialistes.
Arnaud Montebourg attendra pour dire s'il participe à la primaire de la gauche au mois de janvier. D'ici là, son objectif est de dépasser le petit parti socialiste et son projet, précise-t-il, est tout à la fois socialiste, écologiste, républicain et va même puiser dans le gaullisme social, dit-il, un projet qui s'adresse aux oubliés de l'économie et de la politique, pour reprendre les termes de l'ancien ministre de l'économie.
Merci Ludovic Piétenu, 12h49, c'est donc la séquence interview, retour vers vous. Véronique Descac, secrétaire générale adjointe de la CFDT, puisque la CFDT lance aujourd'hui aujourd'hui une enquête nationale sur le monde du travail pour remettre ce thème au cœur du débat politique. Nous sommes en pleine campagne, on vient de l'entendre, campagne concentrée sur les questions d'identité et de sécurité. Question avec Annabelle Grelier.
Bonjour. La loi travail, hein, tout de même, aura laissé des traces, sinon fait bouger les lignes, hein, et mis au jour quand même des clivages syndicaux. Si on simplifie, deux conceptions antagonistes du syndicalisme sont sorties du conflit contre la loi travail. Du côté des contestataires, CGT, FO, Solidaire, FSU, et de l'autre, les réformistes, dont vous êtes la tête de proue, la CFDT, avec la CFTC, CFE-CGC, d'emblée ouvert à la négociation. Ma première question, Véronique Descac, quel bilan tirez-vous, vous, à la CFDT, de ce long conflit sur la loi du travail en interne, hein, vis-à-vis de vos militants?
Alors d'abord, il faut dire que c'est ce clivage dans le monde syndical, c'est-à-dire ces deux pôles, un pôle contestataire, un pôle plus réformiste qui négocie, qui porte des réformes, il n'a pas attendu la loi travail pour se faire jour. Hein. Il existe depuis un certain nombre d'années et on a même pu mesurer aux élections dans les entreprises en 2013, avec le bilan des élections en 2013, que le pôle réformiste était majoritaire. Donc on ne le souligne pas suffisamment, on a l'impression l'image du syndicalisme français, ça sera l'image d'un syndicalisme contestataire. Or, les organisations réformistes sont majoritaires, il faut qu'on se le dise et qu'on se le répète. Alors le bilan de cette période, c'est d'abord qu'il y a eu et il y a toujours probablement un défaut d'explication sur ce qu'il y a dans cette loi travail et sur les objectifs de cette loi travail. Parce qu'effectivement, réformer, mais réformer pour quoi faire ? Nous, la CFDT, nous pensons qu'il faut réformer pour transformer en profondeur le modèle productif, pour améliorer les conditions de travail. On s'intéresse de près à ce que c'est le travail au quotidien des salariés, d'où l'enquête qu'on lance aujourd'hui. Mmh. Et il faut réformer notamment pour mieux prendre en compte les nouveaux risques.
Tout ça, c'est fini, excusez-moi, mais est-ce que vous êtes satisfaite finalement de ce qui est sorti du Parlement
Ce qui est sorti du Parlement, on est satisfait parce qu'on a pesé dessus. On a pesé dessus dans les discussions avec le gouvernement, on a pesé dessus auprès des parlementaires. Donc nous, on estime qu'aujourd'hui, ce texte, il répond aux enjeux de modernité du monde du
Alors,
travail.
Alors, si vous dites que le clivage des réformistes et des protestataires a toujours existé, il y a quand même un avant et un après, il y en aura forcément avec cette loi travail. Les lignes ont bougé au sein de chaque camp. On a même la CFE-CGC qui était très opposée au texte, sans pour autant rejoindre les contestataires, mais qui a revendiqué une troisième voie. Force ouvrière a noué une alliance exceptionnelle avec la CGT, qui était sa sœur ennemie. Et si les relations CFDT-CGT sont restées courtoises, Laurent Berger et Jean-Claude Mailly ne se parlent plus. Alors, comment envisagez-vous la suite? Vous l'avez dit, nous sommes dans une année électorale. Les syndicats sont-ils en mesure de faire front commun aujourd'hui ?
C'est pas le sujet, non. Le sujet aujourd'hui, pour nous, la priorité, c'est mettre en œuvre concrètement ce qui est issu, les nouveaux droits issus de cette loi. Les nouveaux droits issus de cette loi, ils sont nombreux. La lutte contre le harcèlement, la lutte contre le travail détaché, qui est ô combien important à la fois pour les entreprises et pour les salariés. Et puis surtout, ce fameux compte personnel d'activité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de donner des droits
que le patronat ne veut toujours pas.
Que le patronat ne veut toujours pas, mais il est dans la loi. Donc le patronat, il devra faire avec ce qu'il y a aussi dans ce texte. C'est vrai qu'on s'est battu un peu sur tous les fronts. Donc le compte personnel d'activité, c'est donner des droits à tous les individus qui travaillent, qui soient salariés, qui soient fonctionnaires, qui soient auto-entrepreneurs, qui travaillent pour des plateformes du numérique, toutes ces fameuses nouvelles formes d'emploi. On dit depuis des années, il faut s'en préoccuper. Eh bien voilà, on a trouvé un outil qui va permettre de donner de la formation professionnelle, mais même donner de la protection sociale à toutes ces nouvelles formes d'emploi.
Alors, sur cette loi de travail que vous avez accompagnée de vos voeux, vous le redites encore aujourd'hui, la loi prévoit la refondation d'ici 2 ans de l'intégralité du Code du travail. Alors, si la gauche est reconduite, elle ne reviendra pas sur le temps de travail, elle l'a promis. Mais à droite, on entend déjà tous les projets des candidats à la primaire. Ils ont tous l'intention d'aller beaucoup plus loin. Suppression des 35 heures, liberté pour les entreprises de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Bref, à la CFDT, on ne se pose jamais la question de savoir si on n'aurait pas ouvert la boîte de Pandore quand même.
Le pire serait de ne rien changer. Parce que alors là, pour le coup, si on était dans l'incapacité de montrer que par la négociation, par la discussion, par le débat et par la proximité avec les salariés, on n'est pas capable d'adapter ce qu'on appelle notre modèle social aux nouveaux besoins, aux nouvelles aspirations des salariés et aux nouveaux risques qu'ils encourent, alors là, oui, on pourrait trouver légitime de faire péter le système un petit peu.
Mais vous seriez capable de venir dans la rue contre ce genre de proposition ?
Nous, on estime qu'on a des arguments justement à faire valoir pour démontrer que par le dialogue social, par la concertation, on peut adapter le modèle social dans un sens qui le rend plus utile pour les salariés.
Et ça marche aussi pour la droite, ce que vous dites là ?
Mais ça marche pour tout. Nous, on a toujours discuté. De la même manière qu'on discute avec tous les patrons sans qu'on les choisisse, on discute avec tous les gouvernements sans qu'on les choisisse.
Oui, alors Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, il avait déclaré il y a quelque temps « Le syndicalisme est à un tournant, il doit faire preuve de son efficacité, sinon on va se passer de nous et on sait de quel côté le patronat et les politiques aimeraient bien se passer de nous ».
Oui, bien sûr, on voit bien qu'apparaissent dans les pré-projets aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on pourrait se passer des organisations syndicales pour aller discuter directement avec les salariés dans les entreprises.
Et c'est pour ça que la contestation, quelque part, est-ce que c'est pas planter des drapeaux pour savoir où sont les limites ?
Pas du tout. Nous, on s'est battus et on a obtenu ça. Devant le Parlement, on a obtenu le qu'on puisse présenter le mandatement, par exemple, c'est-à-dire que, y compris dans les TPE, on puisse présenter des candidats des organisations syndicales. On a obtenu de maintenir les 35 heures dans le Code du travail. On a obtenu de maintenir le paiement des heures supplémentaires dans le Code du travail. La discussion sur le temps partiel dans les branches. Donc, on a obtenu un certain nombre de choses. Nous, on estime que aucun pouvoir ne pourra se passer de l'avis des représentants du personnel et de l'avis des salariés
dans
les réformes à mettre en œuvre.
Si tant est qu'il soit écouté cet avis.
Eh bien oui, c'est bien un des gros enjeux de la campagne, de faire en sorte que la société civile, les corps intermédiaires dont les syndicats font partie, soient aussi entendus.
Et vous n'avez pas appelé à voter pour un candidat particulier ?
Ça fait plus de 30 ans qu'on ne le fait pas, donc on ne va pas le faire. Non.
Merci beaucoup Véronique Descac d'avoir accepter notre invitation. Un temps changeant, des éclaircies, du soleil près de la Méditerranée, température de 18 à 28 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.